Pour commencer mon intervention, je voudrais rappeler rapidement le rôle politique de premier plan que les Skalds ont joué dans les milieux élitaires de la Scandinavie médiévale. Dès la fin du IXe siècle, et ce jusqu'à la fin du XIIIe siècle, beaucoup de poètes sont entrés au service de rois et chefs nordiques, et ils ont composé pour eux des poèmes sur leurs accomplissements, leurs talents militaires et navals, ou encore leurs vertus et leur générosité. Souvent, ils inscrivaient ces personnages dans des lignées prestigieuses en glorifiant leurs ancêtres. Ainsi, ils remplissaient les fonctions de propagandistes et de mémorialistes en figeant le souvenir de ces hauts faits dans leurs vers qui étaient transmis de génération en génération. Ce rôle politique des Skalds, il est aujourd'hui bien connu et il a été largement étudié. Mais un autre aspect de ce rôle politique a moins retenu l'attention des spécialistes. Les sources indiquent en effet que certains poètes ont occasionnellement eu un rôle plus actif, notamment en officiant comme messager, comme informateur, comme espion, comme intermédiaire ou comme négociateur entre les groupes. Et puis quelques-uns de ces Skalds diplomates, comme je les appelle par commodité, ont même eu recours à l'expression poétique dans le cadre des échanges et pour parler. Dans les sagas, j'ai trouvé une bonne douzaine de personnages qui étaient à la fois Skalds et diplomates. Alors chacun avec des profils très très différents, parce que certains sont des Skalds reconnus et prolifiques, tandis que d'autres semblent avoir eu une production poétique beaucoup plus anecdotique. La plupart sont des personnages historiques qui apparaissent dans des textes comme les sagas royales, mais quelques-uns apparaissent dans de la littérature de fiction, on pourrait appeler. Parmi eux, Sighvatur Thordason est certainement le plus célèbre et le mieux connu. On connaît sa vie principalement grâce à la Heimskringla de Snorri Sturluson, même si on trouve quelques éléments dans d'autres textes, Flateyjarbók, les différentes versions de la saga d'Olaf ou Fagerskinna. Il a vécu durant la première moitié du XIe siècle et il a été au service de figures majeures de son temps, notamment le roi norvégien Olaf Haraldsson ou encore le Danois Knut le Grand. On lui connaît un nombre singulièrement important de poèmes, mais sa carrière est aussi marquée par les différentes missions diplomatiques qui lui sont confiées. Et à l'occasion de ces missions, Sighvatur compose quelques poèmes. Certains d'entre eux sont déclamés devant les seigneurs lors des négociations ou pour faire le rapport de ces missions. Eh bien, dans cette communication, on va justement s'intéresser au rapport entre le statut de Skald et celui de diplomate. Je propose deux problématiques ici. D'abord, on peut se demander pourquoi, dans certains cas, on a considéré que des Skalds pouvaient représenter des intermédiaires efficaces. Et deuxièmement, quelles relations ont entretenu l'expression poétique et la communication diplomatique ? Alors, avant d'examiner ces questions, je vous propose quelques repères rapides sur la vie et la carrière de Sighvatur Thordason, et à partir de son cas, on va pouvoir développer ces réflexions. Alors déjà, les premières années de Sighvatur sont méconnues, il passe sa jeunesse en Islande, et c'est dans le cadre d'une expédition marchande qu'il arrive dans le Trøndelag en 1015. D'après la Heimskringla, Sighvatur semble avoir été rapidement intégré dans la hirse du roi Olaf Haraldsson, et il débute ainsi une carrière prolifique de Skald en composant notamment des encomia en l'honneur du roi norvégien, comme Vikingavisur, Nesjavisur, etc. Il devient aussi un des conseillers les plus proches d'Olaf, à tel point qu'il est désigné Stadali, donc connétable. Habituellement, on traduit ça par connétable. Il devient même le parrain de son fils Magnus, qui va devenir le roi Magnus le Bon, tandis qu'Olaf devient, selon la Heimskringla, le parrain de la fille de Sighvatur, Tofa. Mais comme beaucoup de Skalds, Sighvatur n'a pas servi qu'un seul seigneur, il a circulé entre plusieurs cours. Skáldatal, par exemple, lui attribue au moins 6 patrons, Saint Olaf, enfin Olaf Haraldsson, son fils Magnus le Bon, Knut le Grand, enfin le Danois, hein, Knut le Grand, le roi suédois Önundur Olafsson, ou encore les chefs norvégiens Erlingur Skjalgsson et Ivar le Blanc. Et effectivement, hein, on a conservé quelques poèmes en l'honneur de Knut, d'Erlingur et de quelques autres personnages qui sont attribués à Sigvatur. Très tôt, Sigvatur paraît avoir été désigné comme intermédiaire dans différentes situations. Déjà en 1015, donc peu après son arrivée en Norvège, il aurait intercédé entre des marchands islandais et Olaf Haraldsson au sujet d'un conflit autour de la perception de taxes. Plus tard, on a aussi des négociations de paix entre Olaf Haraldsson de Norvège et le roi de Suède, Olaf Skötkonungur. Le roi norvégien envoie donc en 1018 en Suède deux de ses hommes, Björn le Connétable et Hjalti Skeggason. Et en chemin, ces deux personnages-là devaient faire un passage chez le Jarl Rungvald du Västergötland pour tenter d'obtenir son soutien. Et selon Snorri, Sigvatur aurait été associé à cette première mission à la demande de Björn, hein, mais on a très très peu d'informations sur son rôle ici. En tout cas, cette première tentative échoue et en 1019, Sigvatur est envoyé par le roi norvégien dans le Västergötland pour s'assurer une nouvelle fois des bonnes attentions du Jarl Rungvald. Éventuellement, on pourrait inclure aussi le séjour que Sigvatur fait en 1025-1027 en Angleterre et où il rencontre Knut le Grand. Là, il obtient notamment des informations sur ses intentions d'envahir la Norvège, puis il retourne auprès d'Olaf. Enfin, vers 1038, il porte auprès de Magnus le Bon la parole des Bændur qui avaient soutenu le renversement de son père Olaf et il désamorce ainsi une guerre civile entre le roi et ses Bændur. À ces différentes occasions, Sigvatur compose des poèmes, notamment pour exposer ses arguments ou faire le rapport de sa mission, comme une Lögsavisa, Österfaravisur, Västerfaravisur et Bärslöglisvisur. Bon, on en verra quelques extraits. Donc maintenant, on peut s'interroger sur le rapport entre le statut de poète et celui de diplomate. Est-ce qu'on a pu penser que parce que ces personnages étaient des poètes, ils pouvaient être vus comme des intermédiaires efficaces ? Bon, une première piste qu'il faut explorer ici, c'est certainement le réseau des skalds. Et effectivement, le réseau, c'est un point très important quand on examine les profils des diplomates, mais en général, au-delà du cas des skalds. Parce que dans le cadre de ma thèse sur les accords de paix en Scandinavie, j'avais remarqué que beaucoup de personnages qui officiaient comme intermédiaires et qui encourageaient les négociations entre deux camps, ces personnages, ils entretenaient préalablement, souvent, des liens personnels avec les deux camps. Donc, par exemple, des liens familiaux, des liens amicaux ou des liens vassaliques. Même quand leur identité n'est pas clairement mentionnée, on précise volontiers qu'il s'agissait d'amis ou de parents mutuels des chefs. Alors vous en avez un exemple ici, tiré de la saga de Saint Olaf, de la Heimskringla. C'est un accord de paix, un accord entre Erlingur, Skjalgsson et Aslaugur, donc deux chefs norvégiens vers 1020. On n'indique pas qui, ici, fait l'entremise entre les deux personnages, mais on se contente de dire que ce sont des amis de part et d'autre qui interviennent pour les réconcilier. Des exemples comme celui-là, on en a beaucoup. Alors l'intervention de personnages ayant des liens avec les deux camps, ça s'explique très facilement. S'appuyer sur des amis et des parents communs, ça a apporté plus de garanties au succès de la mission. Si un proche vient et fait une requête, déjà on se doit de l'écouter et ces rapports pouvaient justement être utiles pour les prises de contact entre les groupes. Et justement, quand on regarde nos poètes scandinaves, une de leurs grandes caractéristiques, c'est leur itinérance. Leur itinérance et la multiplicité de leurs contacts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les skalds circulent volontiers d'une cour à une autre pour offrir leur service. Et leur travail de skald leur accorde une proximité avec les milieux du pouvoir, ainsi que des attaches dans différentes cours. Sigvatur lui-même, c'est un bon exemple. Dans Skaldatal, j'ai dit qu'on avait déjà 6 patrons qui étaient mentionnés, norvégiens, suédois ou danois. Quand on lit Skaldatal dans son ensemble, on voit que ce n'est pas une situation exceptionnelle. En fait, c'est très courant qu'un poète ait circulé dans différentes cours. On peut donc supposer que cette itinérance et les contacts établis lors des différents séjours ont pu être exploités pour mettre en relation des groupes. Cette dimension apparaît à plusieurs reprises dans la carrière de Sigvatur. Par exemple, on l'observe lors de sa première mission en 1015. Donc, en 1015, un démarchant islandais le charge d'intervenir auprès d'Olaf parce que des impôts sur les navires marchands ont été perçus à 2 reprises alors qu'ils n'auraient dû être perçus qu'une seule fois. Donc, Sigvatur déclame alors une strophe, aurait déclamé une strophe devant le roi pour demander la suspension de ses prélèvements. Donc, voici la strophe. On me dira, solliciteur, toi qui réjouis le vautour de Gunnur, donc toi le guerrier, si je fais requête sur les fourrures, nous avons déjà reçu du feu d'Aïr, renonce à la moitié de la taxe sur le navire, toi qui diminue la tanière du flétan du pré, donc toi le généreux, je t'ai moi-même demandé faveur. Donc à la lecture du poème, on comprend que Sigvatur, à ce moment-là, il a déjà officié auprès d'Olaf et il a même reçu de lui une rémunération. Donc, si on suit également le récit de Snorri, à ce moment-là, il est déjà membre de l'Aïrs, d'Olaf. Donc on voit ici que Sigvatur, en tant que skald islandais, permet effectivement aux marchands islandais d'avoir accès au roi. On a un autre exemple très significatif quant à la forme que ces réseaux peuvent prendre. C'est un commentaire que fait Snorri sur la mission de Sigvatur chez le Jarl Rungvald vers 1019 dans le cadre des négociations de paix entre les deux Olaf. Chez le Jarl se trouve également une des filles du roi suédois qui s'appelle Austriur et Sigvatur compte bien s'appuyer sur elle pour ses tractations. Et voici ce que dit Snorri. Sigvatur devint bientôt familier de la fille du roi. Elle le reconnut, lui et ses origines familiales, car le skald Ottarur, neveu de Sigvatur, avait longtemps été en bon terme avec Olaf, le roi des Suédois. Effectivement, Sigvatur va obtenir l'appui d'Austridur pour sa mission, appui qui va aboutir à un mariage entre Austridur et le roi de Norvège. Alors cet extrait, il est intéressant pour 2 raisons. La première, c'est qu'il met en évidence les différentes connexions dont peuvent disposer les skalds dans leurs différentes missions. Ici, l'atout de Sigvatur, c'est évidemment son propre neveu, donc Ottar le Noir, qui lui permet d'entrer plus facilement en contact avec Austridur. Ottar lui-même était un des poètes majeurs de son temps. Il disposait d'ailleurs d'un bon réseau. Skaldatal, on lui attribue pas moins de 6 patrons, dont les rois de Suède, Olaf Skötkonungur et Önundur Olafsson. Mais bon, évidemment, c'est Snorri qui nous présente la chose telle qu'elle. On pourra toujours se poser des questions quant à la fiabilité de son témoignage. Mais en tout cas, Snorri, ici, il essaye de construire un récit cohérent, plausible. Donc le fait qu'il évoque ces réseaux pour expliquer les mécanismes en jeu ici, ça montre au moins que la chose était concevable dans les représentations. Et donc pouvait faire écho à des pratiques réelles. Le deuxième aspect intéressant qui apparaît ici, c'est le fait qu'Austridur reconnaît Sigvatur. Elle le connaît donc déjà et probablement de réputation. Ça nous amène donc à une autre particularité du statut des skalds, c'est le prestige qu'on accorde à ces personnages. Je vous ai expliqué que les intermédiaires, en général, étaient souvent des proches des protagonistes. Mais en plus, quand on examine leur profil, on voit qu'ils comptent souvent parmi les personnages les plus importants de ces milieux. Ils remplissent déjà diverses fonctions, comme connétables, ou alors ils sont des représentants locaux, et même un petit peu plus tard, on va trouver pas mal d'évêques parmi les intermédiaires. Alors évidemment, ça compte, parce que plus on est influent, plus on a de chances de peser dans ces tractations. Justement, l'honneur qu'on accorde au skald, c'est quelque chose qui apparaît régulièrement dans les sagas. Par exemple, cet honneur peut se manifester à travers la place que tiennent certains skalds lors des banquets. Je vous donne une illustration ici, tirée d'Egil Saga, dans laquelle on présente les skalds du roi norvégien Harald à la belle chevelure. Ça nous dit que de tous les hommes de Saïrth, le roi estimait le plus ses skalds. Il siégeait dans le second haut siège, qui est une place d'honneur. S'ensuit une liste de ces skalds et de leur placement dans le banquet, mais retenons ici que l'honneur, le prestige des skalds, a pu être un atout, justement, pour établir des contacts de cette manière. En tout cas, au-delà des questions de réseau et de statut, on peut encore envisager d'autres qualités mobilisées pour désigner les skalds, des poètes, comme intermédiaires. Je propose une autre piste ici, qui est l'éloquence des skalds. Snorri fait justement une remarque intéressante sur Sigvatur. Il nous dit qu'en prose, Sigvatur n'avait pas le parler prompt, mais il avait tant de facilité en poésie qu'il composait d'inspiration comme s'il parlait dans une autre langue. Alors certainement, il ne faut pas prendre au premier degré ce que nous raconte Snorri ici, une anecdote qui a une connotation assez légendaire. En revanche, elle nous dit quelque chose sur la manière dont on se représentait Sigvatur. On pensait qu'il avait des talents oratoires exceptionnels grâce à sa capacité à composer des poèmes comme s'il parlait normalement. Dans les sources islandaises, l'association de la poésie avec une forme d'éloquence, une aisance à s'exprimer, c'est tout à fait courant. Je vous donne juste un exemple qui est tiré de l'Edda de Snorri. Snorri ici nous parle d'une divinité qui s'appelle Brahi, et voici comment il décrit cette divinité. Brahi est renommé pour sa sagesse et surtout pour son éloquence et sa verve. Il est particulièrement doué pour la poésie. Et c'est de là que vient l'appellation de Bragur qui est donnée à cet art. Son nom est également utilisé pour qualifier tout être humain dont l'éloquence dépasse celle des autres hommes ou des autres femmes. Alors notez le vocabulaire employé ici. On emploie deux fois la racine snilt qui veut dire éloquence, et dont l'adjectif est snjatlur. Snjatlur qui veut dire éloquent ou bon en général. Et justement, quand on examine les profils des personnages qui sont désignés pour mener des négociations, pour exposer des arguments dans les assemblées ou les entrevues, il y a une caractéristique qui revient bien souvent dans les sagas, c'est qu'ils sont snjatlir, ils sont éloquents. Par exemple, dans une assemblée, quand une assemblée se tient et qu'un groupe s'exprime, on va désigner le plus éloquent pour porter la parole du groupe. Je vous donne juste un exemple, c'est une scène de la saga d'Olaf Tryggvason. Ici, le roi Olaf Tryggvason souhaite convertir la population du Rogaland au christianisme, les Bændur s'y opposent, donc le roi et les Bændur en débattent lors d'une assemblée autour de 995. Et la saga nous dit que quand le roi Olaf eut fini son discours, un des Bændur parmi les plus éloquents se leva. Il avait été désigné pour répondre en premier au roi Olaf. Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'importance de la parole, mais je dirais même la parole de bonne qualité dans la communication politique. Ça, c'est pas surprenant parce que dans la Scandinavie médiévale, on est dans des sociétés où l'oralité est absolument prédominante. C'est oralement, par exemple, qu'on récite et qu'on transmet les lois. Ce qu'on pourrait appeler aussi le débat public est exclusivement oral, notamment dans le cadre des assemblées. Et j'en passe. Si j'en reviens à nos skalds de diplomate, on trouve justement quelques petits indices qui montrent que les qualités oratoires des skalds sont perçues comme un atout pour négocier et gagner la proximité des grands. On la remarque dans la Heimskringla, par exemple, dans l'épisode des négociations de paix entre les deux Olaf. Ici, on parle de deux skalds qui sont Gizur le Noir et Ottar le Noir, qui aident Hjalti Skeggjason et peut-être Sigvatur à être introduits dans l'entourage du roi de Suède. Et donc ça nous dit ceci. Les skalds, donc Ottarur et Gizurur, étaient souvent auprès du roi car ils avaient leur franc-parler. Pendant la journée, ils étaient souvent assis devant le haut siège du roi ainsi que Hjalti. Ici, on note l'emploi du mot Maol Diarfur. Maol Diarfur, qu'on traduit habituellement par franc-parler. Le terme exprime lui-même une idée d'aisance orale. Or, ce franc-parler, il est parfois associé à une capacité à exprimer les choses et surtout à convaincre. Ça, on le voit un petit peu plus loin dans la saga, au sujet d'un personnage dénommé Ulvir. Ulvir, c'est un bondi qui prend la défense d'un groupe de Bindur accusé par Olaf de pratiquer des rites païens. Et donc, c'est lui, Ulvir, qui prend la parole devant le roi pour défendre ses Bindur. Ulvir était un homme éloquent, Stientlur et au franc-parler, Maol Diarfur, il disculpa les Bindur de tous ses racontars. Bon, vous voyez ici, ce sont des petits éléments, par-ci, par-là. Mais on peut supposer que les capacités oratoires étaient recherchées, en tout cas chez les intermédiaires, capacités oratoires qu'on pouvait trouver chez certains scalds. Ce point nous amène à une dernière question. Une dernière question, c'est pourquoi Sighvatur et quelques autres poètes aussi aurait utilisé la poésie pour rapporter des informations ou exposer des arguments. Ici, c'est plus difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas d'indication directe dans les sagas qui expliquerait leur motivation. Mais je propose quelques pistes ici. D'abord, on peut s'appuyer sur les travaux d'Anthony Foulkes dans « What was Viking Poetry for ?» Pour Foulkes, la poésie confère aux scalds un pouvoir, une ascendance sur leur patron. Ils ont le pouvoir de façonner et de préserver le souvenir des grands personnages. Et ceci grâce à leurs poèmes qui les glorifient, ou parfois qui les calomnient. Et ces poèmes qui sont déclamés en public et transmis de génération en génération. Foulkes, il a d'ailleurs une très belle formule à ce propos. Il nous dit qu'il n'y a pas meilleure illustration que du fait que le stylo, ou dans leur cas, la langue, était plus puissant que la hache. La poésie pouvait attribuer ou retirer l'immortalité. La hache pouvait seulement tuer. Alors comment on peut situer nos poètes diplomates dans cette discussion ? Clairement, l'utilisation de la poésie dans un cadre diplomatique, c'est pas qu'une coquetterie, il y a une motivation derrière. Certainement, la forme poétique apportait une force supplémentaire aux arguments exposés. Chez Foulkes, c'est le pouvoir de porter à la postérité les événements. Plus généralement, on pourrait aussi invoquer la differentia specifica de la poésie. La differentia specifica, là je reprends ici les mots du célèbre linguiste Roman Jakobson. La differentia specifica ici, c'est le fait que la forme poétique confère au langage un caractère particulier qui la place au-dessus de l'expression courante. Donc en définitive, la poésie donnait plus de force, plus de solennité à la parole, ce notamment pour mieux convaincre. Dans cette logique, on peut aussi citer Judith Jesch, qui avait comparé les poèmes scaldiques à différents types de documents écrits de l'Europe médiévale, comme les chroniques, les chartes ou les traités de paix. Et Judith Jesch expliquer que les poèmes scaldiques pouvaient justement remplir les mêmes fonctions que certains documents écrits. Or, Jesch fait aussi un rapprochement entre certains poèmes et des missives, des lettres. Et justement, on a évoqué cette dimension hier après-midi, mais je pense que c'est une grille d'interprétation qui est intéressante pour comprendre la fonction des poèmes, de certains poèmes de Sighvatur. Dans les deux cas, poème et missive, on a effectivement des déclarations qui s'adressent à une ou des personnes en particulier. Elles relèvent d'une sorte de communication publique. La parole rapportée également prend un caractère, on va dire, officiel avec ses supports particuliers. Et poème et lettres visaient d'une certaine manière à passer des déclarations à la postérité, parce qu'elles étaient archivées d'une certaine manière. Bon, au final, tout cela, ça permettrait justement de donner plus de poids aux propos du scald. Mais bon, il faut tout de même relever un problème avec l'utilisation de la poésie. C'est sa complexité qu'on a évoquée depuis le début de ce colloque. On sait que la poésie skaldique, hein, c'est un genre poétique qui est très, très, très sophistiqué. Hein. Ici, je vous ai mis la première strophe de Erfidraopa, de Sigvatur. Et une des grandes difficultés de la poésie, c'est la poésie skaldique, c'est la déconstruction de la syntaxe ici. Hein. Les mots ne sont pas dans l'ordre habituel d'un énoncé simple en prose, bien souvent. Donc là, vous pouvez le voir, à gauche, j'ai mis le poème tel quel, et en dessous, j'ai mis une possibilité de reconstruction du poème selon les normes d'énonciation classiques en vieux norrois. Alors, je sais que c'est un petit peu virtuel et théorique quand on ne parle pas islandais, mais si vous prenez le temps de comparer le poème et la reconstruction proposée, vous voyez que les mots ne sont absolument pas dans le même sens. Ouais. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est le vocabulaire. Parce qu'il y a une convention dans la poésie skaldique qui est qu'on ne nomme jamais une chose par son propre nom. En fait, on va utiliser des métonymies, des périphrases, des métaphores. Par exemple, 12 arbres débouchés de la rivière, c'est 12 hommes. Voilà. Donc ça veut dire que la personne qui écoute le poème, il doit faire tout un travail de reconstruction pour comprendre le poème, ce qui est très, 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 très difficile. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe tout à fait dans certains poèmes de Sigvatur qu'on pourrait qualifier de poèmes officiels. Donc les poèmes, vous savez, qui visent à faire l'éloge de personnages et qui sont destinés à être récités certainement en public et à être transmis de génération en génération. Mais on imagine bien que pour une communication diplomatique, ça ne devait pas arranger la chose. Or, justement, quand on regarde les quelques strophes qui ont dû être récités dans un cadre diplomatique dans lequel on voit que Sigvatur se serait adressé directement à ses patrons, on remarque que Sigvatur a un petit peu contourné ses difficultés. Là, je reprends notamment les commentaires de Finnur Jonsson, le premier, mais il y a eu d'autres chercheurs qui ont fait des commentaires semblables. Dans des poèmes comme Bersöglisvisur, Hösturfarlavisur ou Vesturfarlavisur, Sigvatur applique toujours les règles de versification du Drogfight, mais il simplifie l'ensemble. Je vous donne juste un exemple, c'est la dernière strophe de Hösturfarlavisur. Première chose, on constate qu'il utilise un petit peu moins de Heiti, de Kenningar, enfin de figure de style, pour désigner une chose par autre chose que son nom. En fait, dans cette strophe, il n'y a qu'un seul Kenning qui apparaît ici, c'est maître ou savant des assemblées. Thinga Kenir. Et en plus, les deux mots ne sont pas séparés dans le poème. C'est Thinga Kenir. C'est pas très difficile à comprendre. Maître savant des assemblées, c'est le roi, tout simplement. Deuxième chose, pour ce qui est dénoncé, on voit également que la déstructuration est beaucoup moins forte que dans d'autres poèmes. Ici, j'ai souligné en orange les quelques mots dans le poème qui mériteraient d'être replacés dans une reconstruction selon des normes classiques d'expression en prose. Et vous voyez que là, il y en a très très peu, alors que dans le poème précédent, tous les mots étaient dans le désordre, les phrases s'entrelaçaient complètement. Donc voilà, on voit que ce genre de poème est beaucoup plus facile à comprendre, effectivement. Donc au final, ces strophes sont plus simples à comprendre, ce qui a dû faciliter la communication. Mais avec la versification qui reste ici, Sigvatur reste dans une forme d'expression poétique avec les intérêts qu'elle peut avoir. Donc pour conclure, on peut souligner l'originalité du rapport entre poésie et politique dans la Scandinavie médiévale. Comme j'ai dit en introduction, la poésie est d'abord un instrument pour glorifier, légitimer les élites, mais le cas de Sigvatur nous permet d'aller un petit peu plus loin sur ce lien étroit entre poésie et politique. La poésie n'est pas uniquement un support pour exprimer des idées. Avec nos scales de diplomate, on a aussi une véritable complémentarité entre le statut de poète et celui de diplomate. Car les qualités, les qualifications des scalds en tant que scalds sont mobilisées pour permettre les contacts entre les parties. Et à l'inverse, les activités diplomatiques alimentent l'activité poétique à travers la composition de poèmes. Voilà, je vous remercie.